BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va parler du bilan mi-mandat d'Emmanuel Macron. La En Marche considère que 85% du programme du candidat Macron est engagé. Est-ce que c'est le cas? Réforme économique, bien sûr. On en parlera avec Stéphane Rosès, le président de la société de conseil CAP, prof H et CS Sciences Po. Stéphane Rosès, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là. Vous allez détailler tout ça pour nous. On parlera de privatisation avec Marie Lebec. Elle est vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle était l'ancienne rapporteure de la loi PAC, notamment sur justement ces questions de privatisation. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et puis je recevrai André Lescruc-Pietri. Il est le patron, vous le connaissez bien, du fonds d'investissement à Capital. On fera le point de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Est-ce que les contrats sont des vrais contrats? Est-ce que ça rapporte quelque chose? Pour l'instant, c'est Thomas Asportas qui est avec nous pour l'essentiel de l'info. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et c'est donc le grand retour des privatisations avec le top départ de la privatisation de la Française des Jeux. La souscription démarre aujourd'hui, c'est jusqu'au 19 novembre. Le prix de l'action sera compris entre 16,50 € et 19,90 €, ce qui valoriserait la FDJ entre 3,15 et 3,8 milliards d'euros d'après les déclarations de Stéphane Pallez ce matin. Sur BFM Business, l'État va céder jusqu'à 52% du capital et empocher entre 1,6 et 2 milliards d'euros dans l'opération. Le commissaire aux participations de l'État, Martin Vial, ajoute que d'autres cessions d'actifs pourraient suivre après la FDJ. Sur le front des tensions commerciales, c'est une annonce très importante que vient de faire la Chine. La Chine annonce en effet officiellement avoir trouvé un accord avec les États-Unis pour lever progressivement les tarifs douaniers qu'ils s'imposent mutuellement. Les droits de douane seraient levés par étapes au fur et à mesure des progrès réalisés vers un accord commercial. Et puis en France, c'est forcément un petit peu la conséquence de cette guerre commerciale qui s'éternise. Les industriels annoncent pour 2020 un recul de leurs dépenses d'investissement de 1%. L'INSEE explique que la baisse serait particulièrement forte dans les secteurs des biens d'équipement et des matériels de transport. Pour cette année, l'investissement manufacturier devrait progresser de 4%. Et puis un mauvais indicateur, un de plus pour l'Allemagne. La production industrielle a reculé en septembre et plus qu'attendu de 0,6%. La seule production manufacturière, donc hors énergie, a reculé de 1,3%. Et ce n'est donc pas une surprise si la Commission européenne a revu à la baisse ce matin, une fois de plus, ses prévisions de croissance pour la zone euro. Elles passent de 1,2 à 1,1% pour cette année et de 1,4 à 1,2% pour 2020. Bruxelles ne prévoit plus pour l'année prochaine que 1,3% de croissance pour la France et 1% en Allemagne. BFM Business, il est midi 3. Aujourd'hui, c'est BFM Awards. On file au théâtre des Champs-Élysées. Nous attend Raphaël Couder qui est déjà sur place. Bonjour Raphaël. Est-ce que vous nous confirmez que tout sera bien prêt pour ce soir 19h?
Oui, tout sera bien prêt, Thomas, et je vous le confirme. Effectivement, là, tous les derniers détails sont en train d'être réglés juste derrière moi dans la grande salle de ce théâtre des Champs-Élysées. Alors, c'est la 15e édition cette année de ces BFM Awards et elle est placée sous le signe de la conquête. La conquête en référence à la conquête spatiale, 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et on va récompenser cette année les meilleures performances, on va récompenser les meilleures performances à l'export, les meilleurs entrepreneurs de l'année et notamment aussi la meilleure saga familiale. On va aussi récompenser les meilleures entreprises.
Et puis il y a le manager, bien sûr, et Raphaël, il y a le manager. Il y a le grand manager aussi, ça c'est le
qui va succéder à François Rupino, qu'on voit à l'image pour ceux qui nous regardent à la télévision.
Effectivement, voilà, vous le voyez pour ceux qui nous suivent à la télévision. On attend 1600 personnes ce soir dans la salle. On attend des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, mais aussi des créateurs venus d'horizons divers, tous venus pour célébrer l'excellence de l'économie française. La cérémonie commencera à 19h avec Pauline Tadevin et la grande cérémonie se poursuivra avec Christophe Jakubisine, accompagné de plusieurs membres de la rédaction de BFM Business qui succédera au lauréat de l'an dernier du Grand Prix François Henri Pinault. Et bien pour le savoir, rendez-vous dès 19h sur BFM Business.
Verdict ce soir, effectivement. Merci beaucoup Raphaël, en direct du Théâtre des Champs-Élysées. BFM Awards donc ce soir à 19h. Pour finir, dans l'actualité des entreprises, Toyota fait mieux que résister dans un marché automobile morose. Le groupe japonais publie au premier semestre un chiffre d'affaires en hausse de 4,2%, un bénéfice en progrès de 2,6%. Toyota affirme que c'est le meilleur premier semestre de son histoire en termes de ventes et de bénéfices. BFM Business, il est midi 5. Je vous redonne le CAC 40 à la mi-journée. Le CAC qui évolue dans le vert, qui gagne 0,19% à 5878 points. À nouveau un plus haut annuel. L'euro-dollar est stable, 1 euro s'échange pour $1,1087.
Merci Thomas. 7 novembre, c'est le mi-mandat d'Emmanuel Macron. On fait le bilan avec Stéphane Rosès.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
La question, Stéphane Rosa, je rappelle que vous êtes président de la société de conseil CAP et puis vous êtes prof à HEC à Sciences Po. La question, c'est bilan plutôt positif, plutôt négatif?
Bah, je vais faire du Macron, je vais faire du en même temps. C'est un bilan en demi-teinte. 36% des Français estiment que son action est positive. Ça le place d'ailleurs au-dessus de François Hollande, mais légèrement de ça Nicolas Sarkozy et surtout de Jacques Chirac. Alors, pourquoi bilan en demi-teinte? Il y a eu clairement deux moments dans la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron. Le premier moment, jusqu'au printemps-été 2018, là, l'objectif, c'est réduire les déficits pour derrière relancer l'Europe, de sorte que notamment Bruxelles et surtout Berlin, satisfaits des efforts structurels en termes de réforme du président Macron, bougent les lignes et permettent la deuxième étape du macronisme. Ça ne se fait pas. Et en réplique, les Français, du coup, considérant que le président maîtrise moins la remise en marche du pays, on reste à l'idée qu'au fond sa politique serait injuste et c'est le grand mouvement des Gilets jaunes fortement appuyé par l'opinion.
On est à côté négatif.
Alors là, côté changement de pied puisque le gouvernement début décembre largue 10 milliards de transferts, arrête la taxe et à laquelle se rajoutera ensuite 7 milliards. Et paradoxalement, ce changement de pied d'Emmanuel Macron va bénéficier, enfin pas paradoxalement, mais paradoxalement par rapport à la ligne initiale, va bénéficier au pouvoir d'achat des ménages et au fond à la consommation dans un moment où la conjoncture internationale, elle, se referme. Donc, en un mot, ce n'est pas mauvais pour les ménages, ce n'est pas mauvais pour la croissance. Ça place la France dans la moyenne des pays de l'OCDE plutôt au-dessus en la matière, mais ça se fait évidemment au détriment du déficit qui passe de 2, 5, à de 7 3, à 3.
Voilà. Là, en l'occurrence, en plus on sait parce que la loi de finances rectificative, donc ça y est, là c'est sorti, ça sera bien 3. Donc là, c'est un bilan en demi-teinte, hein, d'accord?
Oui, Stéphane, absolument.
Alors maintenant, sur l'aspect des réformes, puisque la République en Marche a tweeté tout à l'heure, là en l'occurrence, le président a dit qu'a fait 85% du programme engagé par rapport au candidat Macron. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est allé suffisamment loin? Est-ce qu'il est allé trop loin? Et est-ce qu'il n'est pas en train de s'enliser dans la réforme des retraites? C'est à vous, Stéphane.
Oui, c'est au fond ce que les Français retiendront, c'est la réforme du travail qui a été faite. Et puis, vous avez raison, pour en rester aux grandes réformes dites structurelles, il y a la réforme des retraites qui arrive, et là, on sent un Emmanuel Macron, après les Gilets jaunes, très prudent. Il a compris que le seul indicateur du rapport au pays n'était pas, est-ce qu'il y a une opposition crédible au plan politique et syndical? Il n'y en a pas. Mais du fait des Gilets jaunes, le fait qu'à tout moment, le pays peut, lui, se mettre en mouvement à partir d'étincelles pas maîtrisables. Regardez en ce moment la crise à la SNCF, c'est une crise qui ne part pas des syndicats, qui part de la base. Donc, le président a conscience que le pays est dans un état gazeux, il emporte une responsabilité, parce que c'est les limites de ce qu'il fait dans les adresses au pays. On en parlait du en même temps. C'est comme si au matin, il y avait en même temps de la ricorée, la chocolatine, du thé et du café. À un moment, les Français ne savent plus où ils en sont. D'où le sentiment que le président ne tient pas dans l'énoncé même de ce qui se fait avec une grande clarté, une visibilité.
Et donc là, on sent en plus, il y a le couac. Là, aujourd'hui, on a assisté, enfin, entre hier, Édouard Philippe sur les retraites, chez ma consoeur Rotel Krief, qui dit bon, bah, non, mais voilà, pas de clause de grand-père, enfin, ou peut-être sur la régime de la SNCF. En tout cas, qui ne ferme pas la porte. Ce matin, Jean-Paul Delevoye dans Le Parisien, qui dit non, ça n'a aucun sens. Et ça a encore moins de sens si on fait la clause du grand-père pour tout le monde, autant ne pas faire des réformes des retraites. On a envie de dire, mettez-vous d'accord, hein, avant.
Oui. Il y a non seulement ça, Edwige, vous avez raison,
sur
la question des retraites, mais le plus étonnant, c'est même sur la question de la laïcité. Oui. Les ambiguïtés du en même temps fait que, n'est-ce pas, il faut bien comprendre quelque chose dans notre pays. C'est pas parce que l'État est affaibli dans son efficace, que la symbolique de la parole présidentielle n'est pas décisive. Elle est décisive. Ouais. Or, sur des sujets aussi importants que est-ce qu'on réforme la SNCF pour renforcer le modèle ferroviaire ou pour l'adapter à l'extérieur ? Est-ce que la réforme des retraites se justifie quand le total des pensions baisse ou si c'est pour aligner les différents régimes de retraite ? Évidemment, de le voir raison. Si peu à peu, je dirais, ce qui faisait la singularité de la réforme s'amenuise, alors au fond, pourquoi faire une réforme ? Ouais. Mais la question du pays, c'est le pourquoi. D'accord. Et le gouvernement est dans
la question quand même qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que les promesses ont été tenues ? Ou alors, quelque part, on a envie de dire, c'est pas ça qu'attendent les Français, c'est qu'on les emmène quelque part, et Emmanuel Macron, pour l'instant, ne sait pas faire.
Voilà, alors, vous avez très bien, Edwige, vous avez très bien résumé le sujet, l'incompréhension entre le gouvernement, notamment, et le président, et le pays. Emmanuel Macron n'a en aucun cas été élu sur un programme. Il a été élu sur un projet et sa personne, qui était de remettre en marche le pays à partir de ce qu'il était, en disant que le malheur du pays ne venait pas des Français, mais du personnel politique. Et cette promesse de remettre le pays en marche, c'est justement ce que vous dites, c'est une vision. C'est le pays reprend la main sur ce qu'il fait. Et là, au sein de l'exécutif, il y a un débat. Il y a un débat, d'où les couacs sur des questions techniques. Le débat est de deux types. Le premier, quel est l'état réel du pays et est-ce que le gouvernement a les coudées franches ou pas ? Deuxièmement, celui que vous instaurez, c'est-à-dire la différence entre le pourquoi et le comment. En un mot, l'entourage du président de la République, Matignon, Bercy, un logiciel juppéiste, c'est le comment. Eux pensent qu'il faut y aller de façon plus nette dans les réformes structurelles. Le président de la République, qui a pris, un TGV sur la tête avec les Gilets jaunes, lui a une analyse qui est une analyse beaucoup plus réservée, beaucoup plus prudente. Il voit le caractère instable, voire explosif de la situation.
J'ai juste un petit point, parce qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne, on s'en souvient, on disait les Français, ils en ont marre des politiques qui disent on va faire ceci, cela, style Jacques Chirac, avec sa pomme, et puis qui finalement, une fois qu'ils sont élus au pouvoir, ne font rien ou font le contraire de ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, c'est un peu la question que je vous posais à l'instant, mais est-ce que c'est important pour les Français, finalement, ils ne restent pas très traditionnels dans leur approche de la démocratie, c'est donc de dire on va. À la limite, ils en avaient un programme, mais c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Alors que Emmanuel Macron, il s'accroche en disant voilà mon programme, voilà ce que j'ai envie de faire.
Oui, mais il savait bien au moment où il était élu qu'il n'était pas élu sur un programme. Le programme, c'est le moyen.
Pourquoi il le répète alors?
Parce que je crois qu'il n'a pas, il ne voit pas, je dirais, il est enclavé. En fait, il ne fait pas au plan européen ce qu'il a réussi au G7. Il n'arrive pas à faire bouger l'Europe. Il est enclavé dans une Europe procédurale. Alors, ce qu'il fait au G7, c'est de la politique. Et c'est ce qu'il devrait faire en Europe. En fait, peut-être qu'il attend de voir comment la situation va évoluer, notamment en Allemagne. Ce qui est clair, c'est qu'il s'est exonéré des contraintes des 3%. Mais ça ne fait pas une stratégie. Et donc, il fonctionne un tout petit peu, en un mot, à la godille. D'où le sentiment très étonnant, vu de l'extérieur, qu'il va de façon, en fonction des rapports de force.
Là, vous lui conseillez quoi ? Parce que je sais que vous êtes en rapport souvent avec lui ou ses équipes. Vous lui conseillez quoi pour son prochain mandat, enfin, suite de son mandat, sachant qu'il y en a un autre en perspective, en tous les cas, en 2022, mais qu'il y a des élections, il y a les municipales, régionales.
Je fais partie, avec beaucoup d'autres, des personnes qui peuvent éventuellement... Je n'ai pas de statut particulier, mais je pense que ce qui a marché au G7, au fond, c'était de faire la politique. L'Europe est dans une crise très grave. Au plan économique, c'est l'Allemagne qui donne le là. L'Allemagne elle-même connaît la montée du nationalisme en son sein. Donc, il faut qu'il fasse de la politique en Europe. Il faut relancer la machine... Okay. Mais européenne, ça aidera les réformes structurelles.
Par rapport à tout ça, vous conseillez quoi ? C'est qu'on arrête, sur la réforme des retraites, là, franchement, aujourd'hui, on n'y comprend plus rien.
Alors lui-même est prudent puisqu'il renvoie à l'après municipal le soin
de loi juin 2020.
Mais vous avez raison, au fond, normalement, cette réforme devait viser à sauver le système par répartition en alignant, homogénéisant. Mmh. On a des ministres qui disent « Ah oui, non, mais chez moi, hein, les policiers, c'est un peu différent. » Bon, donc, sur...
Il faut qu'il n'y aille pas.
Sur la question de la réforme des retraites, je crois qu'il faut qu'il simplifie et spécifie les choses. Premièrement, ça veut dire au fond de remettre, selon moi, à plat après les municipales cette réforme, parce que situation est très explosive et cette fois-ci, me semble-t-il, l'opinion, contrairement au conflit des cheminots précédents d'avant l'été 2018, l'opinion ne soutiendra pas le président. L'opinion ne consentira pas à cette réforme parce que, entre-temps, il y a eu l'idée que, contrairement à ce qu'il promettait, les réformes ne visaient pas à renforcer ce que nous étions, quitte à faire des sacrifices, des efforts, mais au fond à nous aligner à ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire
il y a un manque de perspective en tous les cas sur cette réforme, c'est clair. Merci beaucoup Stéphane Rosaz d'avoir été avec nous. Le patron de Cap, dans un instant, lui, il est le président du fonds d'investissement à capital, vous le connaissez bien aussi, c'est André Lescruc-Pietri qui sera avec nous. On parlera de la Chine et notamment du bilan, bien sûr, de la visite d'Emmanuel Macron là-bas.
BFM Business, le club de l'heure H.
Et on parle des tensions commerciales entre les Chinois et les Américains. Est-ce qu'on va vers un accord ou pas? Et puis, bien sûr, le bilan de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. On en parle avec André Lescruc-Pietri qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Edwige Chevrillon.
Merci d'être là. Vous êtes le patron du fonds d'investissement à capital. Alors, vous connaissez très bien la Chine, et pour cause. Et puis, vous connaissez aussi très bien l'Allemagne, parce que votre nom imprononçable montre que vous avez des origines allemandes.
Personne n'est parfait.
Plus sérieusement, André Lescruc-Pietri, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un accord qui est en train on est en train de trouver un accord, ou en tout cas on est vers un apaisement entre la Chine et les États-Unis?
On a l'impression qu'effectivement sur l'aspect commercial, il y a une désescalade. Il y a eu une annonce il y a quelques heures du fait que les tarifs commerciaux, donc les droits de douane exceptionnels qui ont été mis en place par cliquets successifs seraient baissés par cliquets successifs. Sauf que, moi il y a quelques semaines j'étais à Washington, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'à la fois dans l'administration évidemment Trump, mais aussi chez des démocrates bontins qui aujourd'hui sont dans l'opposition, dans les think tanks, il y a un mot qui revient en permanence à propos de la Chine, c'est le mot de guerre. Donc il ne s'en cache plus, il y a une espèce d'accord transpartisan pour dire aujourd'hui nous sommes réellement en guerre sur tous les aspects technologiques, géopolitiques, etc. Et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que l'administration Trump, oui, va probablement arriver à un accord sur le commerce, mais sur tous les autres sujets...
On va expliquer qu'il y a des levées...
Il y a des levées partielles, mais il y a les introductions en bourse d'entreprises chinoises sont de plus en plus restreintes. Il y a également des sociétés, notamment dans les semi-conducteurs, à qui on demande de produire maintenant, de ne plus produire en Chine ou à Taïwan, mais de produire aux États-Unis. Il y a des grands fonds d'investissement, notamment les pensions de retraite gouvernementales, qui aujourd'hui se refusent à accepter du financement chinois. Donc, on est en train de voir une espèce de ce qu'on appelle vraiment de disjonction entre les deux pays qui sont aujourd'hui encore les deux pays les plus impliqués du monde.
Est-ce qu'il était, ça va vous déplaire comme question, mais est-ce qu'il n'était pas temps aussi de mettre un terme à l'expansionnisme chinois? Parce qu'après, on nous fera basculer sur l'Europe.
Ouais. Non, vous ne me déplaisez pas du tout là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, moi j'ai envie de dire, avec l'attitude qu'a eu le président de la République en Chine, on a envie de dire, enfin... quelqu'un qui fait finalement ce que le monde des affaires, la Chambre de commerce européenne en Chine ou autre, dit depuis une dizaine d'années, qui est le marché chinois, contrairement à ce qu'on dit, ne s'est pas ouvert. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu énormes promesses qui ont été faites en 2001 lors de l'accession à l'OMC, mais que, vous prenez les services financiers, on est très content d'une émission obligataire qui a été signée lors de cette visite, mais aujourd'hui les marchés financiers, la part de marché des étrangers sur cet immense marché chinois, elle est passée de 2% il y a 15 ans à 1,5% aujourd'hui. Sur tous les sujets stratégiques, l'énergie, les transports, le nucléaire, l'aéronautique, ça a plutôt tendance à se refermer.
Alors, est-ce que vous pensez que les Chinois ont compris le message?
De la part de Donald Trump, très certainement.
D'accord.
De la part des Européens, Ils l'ont compris, je vais vous dire, l'image qui reste, qui me reste pour cette année, c'est lorsque Emmanuel Macron a reçu Xi Jinping sur le perron de l'Elysée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu au dernier moment, a été prévu d'inviter Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, et Angela Merkel. Et ça, jusqu'au dernier moment, apparemment, la partie chinoise avait qu'une envie, c'était surtout que ça se passe pas, menacée de l'annuler. Oui. Ça s'est pas fait, et ça a été vraiment les symboles comptent. Bon, qu'il aille avec un commissaire européen, bon, certes, qui va être le futur commissaire au commerce, Phil Hogan, et Anja Karliczek, que j'aime bien, mais qui est bon, quand même un deuxième couteau du gouvernement allemand.
Mais il a beaucoup parlé de souveraineté européenne là-bas. Alors
et après, ça va dans le bon sens. Ouais. Sauf que aujourd'hui, il faut maintenant le mettre en œuvre, c'est-à-dire que en parler, c'est bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie commune sur le contrôle des investissements? Il y a quelque chose qui... On a mis 3 ans à mettre en place un échange d'informations. Franchement, il faudrait quand même qu'on s'adapte au rythme du monde dans lequel il est. Mmh. Est-ce qu'on a une stratégie commune sur la grande affaire pour la Chine, qui est l'intelligence artificielle? On n'en a aucune. Il n'y a aucune stratégie commune déjà entre la France et l'Allemagne. Mmh. Donc, montrons que là-dessus, on est réellement sérieux. Et... là, probablement, les Chinois commenceront à nous prendre au sérieux, parce qu'il ne faut pas oublier, la Chine exporte 30%...
C'est peut-être l'enjeu, le grand enjeu de cette Commission européenne, enfin la future Commission européenne, et Thierry Breton.
Oui, alors quand j'entends Ursula von der Leyen voulant faire de la Commission une Commission géopolitique, voilà, là j'applaudis à demain, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir d'un côté l'économie, ce qui était un peu le mythe de gens à Bruxelles, de dire, bon, il y a le business d'un côté, il y a la politique de l'autre. Non, aujourd'hui, et Trump le montre bien, et la relation Chine-Europe, Chine-États-Unis le montre bien, il n'y a plus de distinction entre technologie, économie et politique. Si on n'est pas fort économiquement et politiquement, on pourrait même dire militairement, on a de plus en plus de mal à faire passer et on revient avec des visites où on signe finalement aucun contrat ferme.
On a vu, c'est un petit bilan, on ne va pas faire l'inventaire. Est-ce qu'on peut dire que c'était un succès cette visite?
Oui, il y a eu, on
va voir ce qui se passe sur Orano, parce que là, évidemment, c'est un peu...
Oui, il ne faut pas oublier que sur les fameux 15 milliards, alors annoncés côté chinois, 2/3 de ça, c'est la partie qui reviendrait à Orano sur la fameuse usine de retraitement qui devait être signée et où maintenant il y a eu un engagement d'arriver fin janvier, alors c'est demain ça, c'est dans 2 mois, un accord. Bon, à nouveau, je pense
comme
que ça fait...
Philippe Varin, qui était mon invité il y a quelques jours, président du conseil justement d'administration de Orano, il disait, moi j'attends toujours la dernière page. Il y a 100 000 pages qui ont été signées, la dernière page, et qu'il y a quand même un petit écart sur le prix. On attend de voir, soyons prudents.
Oui, oui, et je dirais même que sur la Chine, c'est très caractéristique du monde dans lequel on vit. Oui, on peut signer le contrat, mais si quasiment tous les mois ou tous les 3 mois, les choses n'avancent pas au rythme qui a été prévu, le risque ensuite, c'est que les choses divergent.
Est-ce que pour nous, ce qu'il y a de plus, peut-être plus inquiétant, malgré tout, c'est les rapports entre la France et l'Allemagne? Parce qu'on voit bien qu'on est vraiment complètement... Avant, on était deux rails, mais grosso modo, on allait dans la même direction. Et que là, sur l'Allemagne, on voit, c'est quand même très compliqué de comprendre ce qui s'y passe sur le plan politique. Là, c'est les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Je crois que vous y allez, hein, justement. Est-ce que vous vous dites que c'est peut-être là le point de rupture?
Alors, je suis personnellement très, très inquiet, parce qu'on est encore dans cet affichage, ces grandes déclarations, que ce soit côté allemand, quand vous avez le ministre de l'économie qui est l'invité d'honneur des rencontres du MEDEF, enfin les REF, ouais, qui fait un grand discours en affichant des... Ça va dans le bon sens. Sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, il n'y a quasiment aucune des mesures qui avaient été plutôt courageusement annoncées lors du discours de la Sorbonne qui est mise en œuvre. Aucune de celles-là ne fonctionne. Je crains que le mal ne soit plus profond, c'est qu'en fait, je pense qu'on ne se comprend plus. Je pense qu'en France, avec quand même un fonctionnement assez vertical, on est aujourd'hui aux années-lumière de la manière dont la chancelière fonctionne, dont la grande coalition fonctionne, dont l'Allemagne fonctionne, et l'inverse, c'est vrai.
Et surtout, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est que la grande coalition. J'ai envie de dire, c'est peut-être un fait exprès, mais pour ceux qui nous regardent à la télévision, il y a une grande panne d'écran derrière nous, donc on est tout en noir. C'est juste, c'est pas parce qu'on
parle de l'Allemagne. J'espère que
c'est pas symbolique. Espérons que c'est pas ça. symbolique de ce qui se passe en Allemagne. André Le Scrutpietri, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on ne sait même pas qui va succéder à...
Non, mais c'est une fin de règne qui n'en finit pas.
Voilà, et la Merkel, c'est même pas
et beaucoup
caca,
d'Allemands deviennent...
Merkel, qui paraît-il est très bien, je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, alors, justement, ça c'est assez intéressant, des gens comme Friedrich Merz ou Spahn, Jens Spahn, qui est le ministre de la Santé, sont des inconnus complets en France, alors que c'est peut-être ceux qui un jour succéderont à la chancellerie. Non, le problème aujourd'hui qu'on a, et on l'a bien vu avec les dernières élections en Thuringe, où il y a quand même l'extrême droite qui est arrivée à plus de 26-27%, à nouveau Angela Merkel n'a pas pris la parole, il commence à y avoir maintenant, même dans la CDU, donc le parti au pouvoir, des voix pour dire ça ne peut plus durer. Ouais. Cette direction d'un pays sans leadership, oui. Ça fait très peur, et le problème c'est que ça a un impact non pas seulement sur l'Allemagne,
sur l'Europe,
qui est en train aujourd'hui de louper beaucoup de transitions énergétiques, technologiques. Regardez sur le véhicule autonome, je veux dire, la grande industrie automobile allemande, le salon de Francfort, moins 30% de fréquentation. Donc on assiste quand même à un effondrement un peu de l'ancien système.
Le modèle économique, notamment avec ces guerres commerciales.
Et c'est peut-être normal, hein, c'est le monde dans lequel on vit, mais qu'est-ce qui est proposé? Où est la vision? Et c'est ça où la difficulté va être, c'est qu'il ne faut pas imposer une vision française parce qu'elle aurait beaucoup de mal. Je veux dire, l'Europe, il faut se le mettre dans la tête, n'est pas une grande France, mais malheureusement, je pense qu'encore aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup encore qui le pensent. On n'y arrivera
parce
pas.
Parce que les grands constructeurs de l'Europe ont été français quand même.
Oui, mais à nouveau, Monet, c'était au précédent millénaire. Oui. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux et ça ne sera pas les États-Unis d'Europe, ça ne sera pas la Chine autoritaire, et je l'espère. C'est ça un modèle nouveau qu'il faut qu'on invente, qui est un modèle où on construit sur nos diversités. Je ne veux pas être un optimiste béat, mais je crois que là-dessus, il faut un changement, même au sein de nos élites, de la manière de penser l'Europe.
De logiciel, il faut peut-être changer aussi les élites. Merci beaucoup, André Le Scrutpietri, d'avoir été avec nous, patron Fonds d'Investissement Capital. Et on va suivre, hein, vous reviendrez nous parler d'Allemagne, parce que je pense que c'est vraiment là où se trouve le nœud, et que pour l'instant, c'est un peu difficile. Je recevrai l'ambassadeur d'Allemagne la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Dans un instant, elle, c'est une des jeunes qui monte au sein de La République En Marche, puisqu'elle est déjà vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Marie Lebec, qui a été en charge des privatisations. Évidemment, on va revenir sur la Française des Jeux. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Marie Lebec est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, l'heure du mi-mandat d'Emmanuel Macron. Bien sûr, on parlera de la FDJ dans un instant. Pour l'instant, on rappelle les titres avec Thomas Asportas.
La FDJ, justement, la souscription qui démarre aujourd'hui, c'est jusqu'au 19 novembre. Le prix de l'action sera compris entre 16,50 € et 19,90 €, ce qui valoriserait la FDJ entre 3,15 et 3,8 milliards d'euros, d'après les déclarations de Stéphane Pallès ce matin sur BFM Business. L'État va céder jusqu'à 52% du capital et empocher entre 1,6 et 2 milliards d'euros. Sur le front des tensions commerciales, c'est une annonce très importante que vient de faire la Chine. La Chine annonce en effet officiellement avoir trouvé un accord avec les États-Unis pour lever progressivement les tarifs douaniers qui s'imposent mutuellement. Les droits de douane seraient levés par étapes au fur et à mesure des progrès réalisés vers un accord commercial. Et puis en France, c'est forcément un peu la conséquence de cette guerre commerciale qui s'éternise. Les industriels annoncent pour 2020 un recul de leurs dépenses d'investissement de 1%. L'INSEE explique que cette baisse serait particulièrement forte dans les secteurs des biens d'équipement et des matériels de transport. Pour cette année, l'investissement manufacturier devrait progresser de 4%. Et puis pour finir, et c'est la suite logique quelque part de tout ce qu'on vient de dire, la Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Elle passe de 1,2 à 1,1% pour cette année et de 1,4 à 1,2 pour 2020. Bruxelles ne prévoit plus pour l'année prochaine que 1,3% de croissance pour la France et 1% en Allemagne. BFM Business, midi 33. Je vous redonne le CAC à la mi-journée qui progresse, qui gagne 0,16% à 5876 points. L'euro-dollar progresse aussi, on gagne 0,17%. Un euro s'échange pour 1,10 $. 89.
Merci Thomas. Dans un instant, c'est Marie Lebec, c'est l'ancienne rapporteure de la loi Pacte en charge des privatisations. Elle est vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans un instant, juste après une page de pub.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Marie Lebec. Elle est vice-présidente du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis surtout, vous étiez l'ancienne rapporteure de la loi Pacte.
Tout à fait.
Notamment en charge des privatisations. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, pour vous, c'est... vous êtes satisfait une première étape avec le lancement de la privatisation de la FDJ.
Oui, tout à fait. Et puis dans la vie d'un parlementaire, c'est assez rare finalement qu'on porte un projet de loi et qu'on envoie son exécution très concrète. Moi, ce matin, j'étais avec Bruno Le Maire à la conférence de presse de lancement. Et voilà, je pense que maintenant, on va regarder si les Français adhèrent à ce projet, s'ils ils prennent des participations dans la Française des Jeux, mais je le souhaite vraiment.
Oui, ça va être, pour vous, bon, au-delà de savoir si l'État va récupérer 1, 2 milliards, on va revenir un petit peu sur les chiffres, mais ce qui est important, c'est voir si les Français sont en rendez-vous. Pour vous, c'est le principal enjeu?
Bah, c'est un enjeu important, parce qu'on en a fait beaucoup la publicité. Je crois que ça rassurait aussi tout le monde sur ce que c'est que réellement une privatisation. On a vu qu'il y avait beaucoup de fantasmes autour de ce que ça représentait, notamment la Française des Jeux à l'aéroport de Paris. On a beaucoup parlé de brader les bijoux de famille, ce qui, je trouve, est vraiment un terme malheureux. Donc oui, on espère que les Français vont être au rendez-vous.
Et enfin, puis... on n'est pas encore sur la DP, on reste sur la FDJ.
Oui. Non.
Là, c'était le fait, petit... mais...
Oui, c'était la privatisation qui était prévue en premier, parce que c'était la plus facile à mettre en œuvre. Je crois que ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin était intéressant, c'est de dire on essaye aussi depuis 2 ans de mettre en place une politique d'incitation pour que les Français fassent plutôt le choix d'investir dans les entreprises. Et avec la FDJ, typiquement avec les dispositions qu'on a mis en place, on peut aussi inciter les Français à être actifs dans cette entreprise.
Mais en même temps, c'est que, comme disait ce matin Bruno Retailleau, qui était mon invité, qui est le président du groupe LR, hein, c'est vrai, des Républicains, au Sénat, il disait, mais finalement, on privatise un monopole qui reste un monopole. Donc l'enjeu, il n'est pas énorme.
Bah, le secteur des jeux en France, ça reste quelque chose de très particulier. Hein. Ouais. Tout est interdit, mais pour éviter l'émergence de jeux illicites, on autorise un certain nombre d'activités autour du jeu, et ça ne change pas. Je veux dire, il y a eu beaucoup de questions autour de la santé publique, des risques d'addiction, de la protection des mineurs, de la lutte contre le blanchiment. Tout ça, c'est important, effectivement, que l'État continue d'avoir la main très fortement sur ces sujets-là. Et en fait, c'est pour ça, effectivement, que ça reste quand même quelque chose de très administré, même si on va vers une privatisation de la Française des Jeux.
Stéphane Pallez était la présidente de la Française des Jeux, était notre invitée ce matin. Elle a dit qu'elle espérait, en tous les cas, que ça valorisait grosso modo l'entreprise entre 3,15 et 3,8 milliards d'euros. C'est une bonne fourchette pour vous? Qui peut élever? Non, c'est quoi?
Non, mais j'avoue que nous, on avait, enfin, vous savez, le travail des parlementaires, c'était pas tellement d'estimer le montant de la Française des Jeux. Moi, je crois que ce qui est important pour montrer aussi aux Français que sur ces privatisations, on est capable de les mener correctement, c'est d'avoir une bonne valorisation de la Française des Jeux. Donc, si c'est autour de 3,15, honnêtement, tant mieux.
Et pour faire quoi, en fait?
Alors, c'est comme pour Aéroport de Paris, l'idée c'est de récupérer les sommes de ces privatisations, les mettre dans un fonds, et puis que ce fonds puisse générer un rendement qui permettra d'investir dans l'avenir.
Parce que ce matin, encore une fois, lui, Bruno Retailleau, il disait, moi en Vendée, lorsque j'étais président de région, j'ai fait un fonds de 300 millions. Là, ils veulent faire un fonds de 400 millions. Donc,
oui, mais
c'est rien à l'échelle de la France, quoi.
On peut toujours critiquer les montants, dire que c'est pas assez, qu'on aurait pu faire plus, qu'on aurait pu réorienter les dividendes. J'ai entendu tous les arguments des Républicains. Moi, ce que je sais, je suis à la commission des affaires économiques. Il n'y a pas une entreprise que je vois qui me dit pas, écoutez, faites ce que vous voulez en termes de politique, mais arrêtez de changer tout le temps. Et je crois que typiquement, ce fonds en matière de financement, en matière de financement de l'innovation, peut-être qu'on pourrait avoir plus, peut-être qu'on pourrait avoir d'autres options. Mais nous, ce qu'on fait, c'est de dire aux entreprises, regardez, on vous donne de la prévisibilité. Ce fonds, il sera pérennisé. C'est pas juste un fonds pour 1 an, 2 ans. C'est un fonds sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, où vous savez que vous aurez 250, 300 millions d'euros.
On peut aller plus loin. Alors ADP, ADP, un mot. Donc bon, on voit quand même que le référendum, c'est en tous les cas, les niveaux seront pas du tout atteints. Hein, donc, si vous voulez, le référendum, oui, il va servir à pas grand chose finalement. Est-ce que vous êtes pour continuer à aller sur la privatisation d'ADP, ou alors il faut mieux attendre?
Mais bien sûr, et c'est d'ailleurs comme celle de la Française des Jeux. J'ai eu un débat ce matin sur une autre chaîne où, en fait, je crois qu'il n'y a pas.
Il n'y a pas le même enjeu, vous le
non,
savez bien.
Non, mais il n'y a pas
là.
Le même enjeu, bien non, sûr, mais je crois qu'il faut quand même rappeler quelque chose. Le fait était, et de dire, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise chose de privatiser. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Moi, je crois surtout que c'est une décision de politique politique publique, on décide d'avoir un État qui est un peu stratège dans la gestion de ses actifs. Il a d'autres entreprises auxquelles il est au capital. Et aujourd'hui, ça me paraît plus important de dire on va aller aider des entreprises dans les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, que Aéroports de Paris et la Française des Jeux. Et bien sûr, ces entreprises, elles vont bien. Et heureusement, vous vendez pas une entreprise quand elle va mal et quand elle est à deux doigts de la faillite, parce que autrement, elle est dépecée et puis elle vous rapporte rien.
Ma question était plus de savoir si, malgré cette espèce de climat social qui est pas terrible, hein, on va en dire un mot bien sûr, est-ce que vous allez, après les municipales, ce qui sera plus prudent, lancer la privatisation d'ADP, où vous dites qu'il y a d'autres respirations du portefeuille public qui sont possibles, comme l'a annoncé ce matin le président de l'Agence des participations?
Moi, je crois que ce qui est sûr, c'est qu'une loi a été votée, que cette loi, elle sécurise l'avenir de l'aéroport de Paris, et que moi, je suis en confiance pour organiser cette privatisation, si c'est la question que vous me posez, et je ne crois pas qu'il faille le corréler forcément à un temps politique.
D'accord, ok. Non, mais parce que sécuriser, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ce n'est pas assez bien sécurisé, pas assez bien ficelé, y compris au sein de votre majorité, y compris à Bercy. Hein, donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement les opposants qui disent ça.
Non, mais beaucoup d'ajouts ont été faits au cours de la loi. Je crois que Bruno Le Maire, qui était notamment directeur de cabinet de Dominique de Villepin au moment de la privatisation des autoroutes, l'a reconnu plusieurs fois en disant ne tombons pas dans les pièges des autoroutes, soyons vigilants, ayons appris de nos erreurs. Et puis ensuite, il y a l'Agence des participations de l'État qui est chargée de la vente. C'est à eux de justement mettre en place toutes les conditions pour que ce ne soit pas une braderie, mais que cette entreprise française, qui est un fleuron notamment en matière de...
Mal ficelé au départ, hein, mal ficelé, reconnaissez.
Non, moi je ne suis pas d'accord. Si vous me dites mal ficelé quand le texte arrive devant le Parlement, l'intérêt d'avoir un débat parlementaire, c'est d'enrichir ce Parlement.
Oui, mais et du
c'est
coup, ce qu'on ça, a fait. Oui, ça suscite la polémique. Enfin,
mais y a
forcément,
aucun...
ça laisse le champ.
Il n'y a aucun texte qui passe devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat qui n'est pas modifié.
Avant de parler peut-être d'autres sessions éventuelles que vous avez identifiées, Marie Lebec, sur ce climat un peu difficile dont je parlais, avec peut-être ce totem du 5 décembre, enfin, on voit bien qu'au-delà de ça, il y a un climat qui est un peu difficile. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'il y a l'anniversaire du mi-mandat d'Emmanuel Macron, mais l'anniversaire des Gilets jaunes, hein, aussi, et puis l'anniversaire du 5 décembre 1995.
De toute façon, je veux dire, il ne faut pas être naïf. Depuis un an, on est effectivement dans une France qui est secouée par des tensions sociales très fortes. Vous avez parlé du mouvement des Gilets jaunes, on aurait pu aussi évoquer la question autour de l'hôpital, la question autour des pompiers. Et c'est vrai qu'on agit dans un contexte politique qui est difficile, qui parfois se crispe très fortement, mais je crois que c'est parce que aussi, et sachez que j'en suis absolument convaincue, on mène des réformes qu'on n'a pas forcément su mener, parce qu'on essaye de mener des réformes sur du temps long, et c'est par exemple ce qu'on essaye de faire sur la question des hôpitaux, sur la question des retraites, et que parfois nos interlocuteurs, à juste titre, parce qu'ils sont dans des situations d'urgence, nous disent, nous on veut pas des réformes de temps long, on veut des réponses tout de suite. Mais moi je crois que beaucoup, depuis longtemps, on a fait des réponses tout de suite.
Quand vous êtes dans la difficulté, c'est sûr que si on vous dit, mais je vous promets que ça ira mieux dans 5 ans, vous dites, mais attendez, j'ai quand même besoin d'aller faire mes courses.
Oui, d'accord, c'est vrai. Mais sauf que je crois quand même que quand vous êtes responsable politique, vous ne pensez pas à la France à 2022. Vous pensez la France que vous allez laisser. Et ce qui est intéressant, justement, avec cette réforme des retraites, c'est que vous pensez la France sur 30 ou 40 ans. Comment est-ce que vous allez la façonner? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que les systèmes que vous avez en place soient transformés? Et puis, je crois quand même qu'il ne faut pas être défaitiste. Il y a aussi des marqueurs économiques qui sont bons. On a une attractivité qui est bonne. On recrée des emplois industriels. On a, malgré tout, même si c'est peut-être pas encore assez perçu par les Français, le retour du pouvoir d'achat, on baisse les impôts. Donc, il y a des choses qui commencent à infuser dans notre économie, des réformes que nous avons portées. Et je crois qu'il faut qu'on soit aussi peut-être plus proactif pour aller les porter, pour aller les présenter auprès des Français et qu'on continue à transformer le pays.
Oui. Est-ce que, justement, une question déjà, je veux poser à Muriel Pénicaud, que je recevais mardi dernier, la ministre du Travail, sur la réforme de l'assurance chômage. Elle disait, il faut aller la faire. Laurent Berger dit, elle est d'une brutalité incroyable, elle est très difficile. Il y a, entre les deux, il y a quand même un raisonnement qui se tient en disant, mais puisque vous avez fait cette réforme de la formation apprentissage qui porte déjà un petit peu ses fruits, mais vous l'avez fait il y a un an, beaucoup d'argent investi, Edouard Philippe l'a rappelé hier. Mais, on voit qu'elle ne porte pas complètement ses fruits aujourd'hui. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la réforme de l'assurance chômage, la décaler en attendant que la formation, l'apprentissage et que le chômage diminuent?
Bah, si on attend le contexte favorable, le meilleur moment possible, on peut passer notre temps à décaler les réformes. Vous savez, moi, hier, j'étais dans l'hémicycle en séance de nuit et j'ai une de mes collègues des Yvelines, Florence Grandjus, qui a travaillé très longtemps chez Pôle emploi. Et elle est venue me dire, justement, me parler un peu de, c'est le pur hasard, mais de cette réforme de retraite, de l'assurance chômage dont on allait parler aujourd'hui. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est normal, finalement, qu'il y ait des réformes de l'assurance chômage parce qu'il faut considérer que c'est une politique qui est très vivante.
Non, mais personne
en fonction...
ne dit pas qu'il faut. Bien,
oui,
bien
oui,
sûr,
mais en fonction de comment est la situation
mais
de l'emploi.
Là, quand même, ça, oui, mais... l'UNEDIC a quand même dit qu'il y aurait un peu grosso modo 1 million, 1,4 million de personnes qui vont être impactées, de chômeurs qui vont
oui,
être impactés.
Oui, mais parce qu'on a une bonne dynamique de la création d'emplois. On a un chômage qui est au plus bas depuis 2001. Il faut qu'on
mais
continue, il faut qu'on
élevé.
Incite
oui,
les gens.
Il reste très élevé.
Il reste très élevé, mais il faut aussi qu'on trouve les moyens d'inciter les gens à reprendre un emploi. Et ça, ça passe, vous avez raison, par la formation, ça passe aussi
oui,
par des modalités différentes de chômage.
Ça donne déjà un peu ses fruits, qu'il y a déjà plus d'apprentissage, plus de formation, que le chômage continue à baisser. À ce moment-là, on peut faire cette réforme qui est quand même assez forte.
Oui, mais un mandat, c'est très court, c'est 5 ans. On n'a pas forcément le temps d'attendre qu'une réforme porte ses fruits pour conduire la suivante. Sinon, on est assez vite paralysé. Et moi, je crois que, oui, c'est une réforme qui est forte, mais parce que le message aussi qu'on veut envoyer aux Français, c'est de dire le contexte économique de la France est bon. Il y a des emplois qui sont créés, il y a des départements qui sont en recherche d'emploi. Il faut qu'on vous accompagne davantage. Et c'est ce qu'on fait en recréant, par exemple, en embauchant 1000 ETP supplémentaires de Pôle emploi. Il faut qu'on lutte contre les contrats courts, les CDD.
Vous assumez la réforme de l'assurance chômage. D'accord. Okay. Non. Est-ce qu'il faut rectifier le tir éventuellement si jamais ça va un peu trop loin?
Alors c'est là où c'est là où vous avez raison. C'est le travail notamment des parlementaires d'être capable d'évaluer une loi et de l'adapter si le dispositif sont pas bons. Mais je suis persuadée qu'il faut que nous saisissions du contexte économique positif dans lequel la France se trouve pour justement conduire des réformes qui peuvent paraître parfois un peu difficiles, mais qui répondent finalement à la société
dans ce climat, le climat quand même. Ce climat social, on voit qu'il y a un mécontentement dans le pays parce que les gens ne savent plus très bien où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils habitent, c'est quoi la France, c'est quoi le modèle social. Il fallait certainement le réformer, mais peut-être qu'il y a trop de réformes, tu la réformes. Voilà, est-ce que c'était le bon timing?
Moi, je crois que...
Et je peux embrayer ensuite sur la réforme des retraites, qui est aussi tous ces allers-retours, c'est un peu anxiogène.
Non, mais
la conduite de la réforme.
On avait un agenda qui était assez clair. On a dit il faut assouplir le cadre du marché du travail parce que c'était un frein pour les salariés et pour les entreprises. Il faut redonner de la compétitivité aux entreprises, abaisser l'impôt sur les sociétés. Il fallait réformer la formation et l'assurance chômage parce que ça faisait partie des grands enjeux aussi de notre politique. Et puis ça continue. Si vous me parlez de l'assurance chômage, bien sûr que cette réforme, il y a des points qui peuvent paraître difficiles pour les salariés. Mais il faut pas oublier qu'on a aussi ouvert de nouveaux droits. Si vous êtes démissionnaire après 5 ans dans une entreprise, vous avez le droit au chômage. C'est quand même pas rien. Si vous êtes indépendant et que vous êtes en liquidation judiciaire, vous avez le droit à une indemnité. C'est quand même pas rien non plus. Donc, je crois que dans une réforme, il ne faut pas toujours chercher est-ce qu'il y a des perdants, est-ce qu'il y a des gagnants. C'est une réforme d'équilibre qui correspond finalement au modèle économique.
Mais, alors, j'ai envie de dire, est-ce que le modèle et vous en êtes une brillante représentante, Marie Lebec, mais le modèle du député La République En Marche, une jeune députée très formée, compétente, qui réussit et qui est quand même assez loin de sa base. Vous voyez, voilà, c'est juste là. Est-ce que on n'est pas un peu dans un schéma où la base politique, il n'y a plus de relais entre les deux?
Alors, vous parliez tout à l'heure de justement l'arrivée de En Marche. Il ne faut pas oublier que En Marche, c'est quand même aussi un parti. Alors, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas assez de mixité, mais en réalité, c'est des gens qui viennent de parcours professionnels extrêmement différents.
Alors, vous êtes tous les uns des autres sur le même.
Non, mais parce que je crois qu'on essaye nous plaquer cette image, mais je ne crois pas que ce soit vrai. On a des gens qui n'étaient pas tous des engagés en politique, qui n'avaient pas fait de carrière politique, qui n'avaient pas vécu que de la politique, qui arrivaient de milieux professionnels différents. Et puis. Loin de la base, je crois que c'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire dans l'acte 2 du quinquennat. Peut-être qu'on a réformé un peu vite dans un premier temps, mais parce qu'on avait aussi une opportunité, on avait une forme d'adhésion. Je crois que cette adhésion, elle existe toujours, puisque un certain nombre de réformes sont quand même bien notées. Je pense au prélèvement à la source, je pense à la suppression de la taxe d'habitation. Mais peut-être que oui, ce qu'on a essayé de faire avec le grand débat, c'est ce qu'on essaye de faire avec la réforme des retraites, travailler davantage à de la concertation, essayer d'être toujours plus au contact du terrain. Et oui, oui, il y a des choses qui ont évolué par rapport au mandat précédent. Vous n'êtes plus cumulard, donc vous n'êtes plus maire et député, donc vous avez une façon d'appréhender différemment. Et je pense que ça change aussi pour les Français.
Vous n'êtes plus connecté, quoi. Vous n'êtes plus connecté.
Mais si, mais vous pouvez être connecté différemment. Vous n'êtes pas obligé d'être. Hier, on avait encore des débats un peu lunaires sur la question de la dotation que les parlementaires avaient pour pouvoir financer les associations. Moi, je suis désolée, c'est pas ça le modèle auquel j'adhère. Donc, je pense que on peut travailler différemment, on peut refonder le rôle du parlementaire, c'est assez fondamental. Et puis oui, il faut qu'on travaille à aller plus sur le terrain, aller plus au contact des Français.
Est-ce qu'il faut, parce que là, la réforme de retraite, c'est un peu la même chose que sur la conduite des réformes. Et Madame Macron, on sent qu'il a un peu de mal à trancher aujourd'hui, c'est-à-dire que il est de plus en plus dans le en même temps. Est-ce que vous ne dites pas qu'il y a un moment où faut qu'on les Français sachent où est-ce qu'ils vont, où est-ce que lui va et où est-ce que vous allez, Marine Le Pen?
Qu'ils sachent, c'est tout à fait légitime. Et vous avez employé un terme anxiogène tout à l'heure, et ça c'est vrai. Je pense que la retraite, c'est un des moments les plus anxiogènes de sa vie. Ah oui. Si vous prenez mes parents qui ont à peu près 55 ans, ils vont vous dire, moi j'ai cotisé toute ma vie, et pour autant ils sont pas capables de lire combien ils auront de retraite plus tard. Et si vous prenez des jeunes de ma génération qui rentrent sur le marché du travail, de toute façon ils sont tous dans une logique de dire, on n'aura pas de retraite. On n'aura pas de retraite, mais on a réformé notre système des retraites. On n'aura pas de retraite, et donc il faut qu'on fasse une sorte d'épargne de précaution. Pour autant, vous rentrez dans une dynamique où vous avez besoin d'un revenu de remplacement puisque vous n'êtes pas salarié. Donc c'est normal qu'on explique. Je crois qu'il y a quelques points forts qui sont très clairs aujourd'hui, c'est dire on garde le système par répartition, mais on met un système par points, ce qui est plus lisible pour l'ensemble des Français. On fait converger, on va vers un régime universel.
Encore une fois, si c'était si simple, il n'y aurait pas tous ces couacs entre Édouard Philippe, Jean-Paul Delevoye, Emmanuel Macron, Muriel Pénicaud. Chacun a l'air d'avoir une lecture un peu différente. Est-ce que, juste sur le mouvement En Marche, est-ce que le mouvement En Marche, est-ce qu'il doit c'est quoi l'étape d'après pour le mouvement auquel vous appartenez, puisque vous êtes vice-présidente du groupe La République?
Y a déjà une étape, une échéance électorale prochaine, puisqu'il y aura des élections municipales, et ça servira à renforcer notre ancrage dans le territoire. Et je pense que c'est important de montrer qu'au-delà du projet national, on a aussi des gens qui sont engagés sur le terrain, qui ont envie de porter un projet politique crédible. Et puis,
pour être crédible, il faudrait que vous ayez remporté combien de villes, grandes villes, villes moyennes?
C'est difficile. Je ne saurais pas vous dire un chiffre exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup aussi dans des dynamiques d'alliance. Et moi, je le vois sur ma circonscription, mais ce n'est pas des grandes villes. Mais de dire aussi, il n'y a pas de raison qu'on soit à tout prix dans la volonté de déboulonner un maire si il a une bonne gestion de sa ville. Et c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, à Toulouse. C'est ce qu'on peut voir à Annecy. Et donc là, la lecture sera différente. Et puis après, je crois que il faut être ambitieux, c'est un peu, vous allez dire c'est encore dit en même temps, mais ambitieux et modeste en même temps, puisque ambitieux parce qu'il faut vouloir gagner quand on se lance dans une bataille électorale, et en même temps modeste parce qu'on n'a que 3 ans d'existence et on n'a pas de...
À Paris, en tous les cas, pour l'instant, c'est à l'air un peu compliqué, là, la force de traîner, on a du mal à choisir, ça vous fait même sourire. Juste un mot peut-être, effectivement, sur les quotas d'immigration professionnelle, vous y êtes favorable?
J'y suis tout à fait favorable. Moi, je crois qu'on a eu un échange avec Muriel Pénicaud avant la veille de la présentation des mesures, où justement elle expliquait, le fait est, ce n'est pas du tout de dire ça doit remplacer des Français qui seraient dans de l'emploi, mais ça doit justement permettre de combler un certain nombre de métiers dans lesquels on a des déficits, et donc il faut qu'on ait une approche beaucoup plus pragmatique, qu'on puisse sourcer par région, puisque c'est les régions qui ont la compétence emploi, les métiers qui manquent, les métiers où on va manquer en matière de formation, parce que par exemple en France on a besoin de 60 000 codeurs, et malgré tout aujourd'hui avec toutes les formations on est capable d'en former 30 000, et donc il faut qu'on arrive à trouver aussi...
Et justement, il y aura ressources. Peut-être des Indiens qui auront envie de venir, en l'occurrence, parce que ce sera plus compliqué pour eux d'aller en Grande-Bretagne. Hein. C'est, en tout cas, c'est un des espoirs.
C'est l'un des avantages du Brexit, et vous savez qu'on travaille beaucoup sur l'attractivité de la France dans ce cadre-là. Donc oui, on continuera d'en faire la promotion.
Pour vous, la prochaine grande étape, c'est quoi, Marie Lebec, à vos yeux?
du quinquennat?
Oui.
Je crois que c'est conduire la réforme des retraites. Moi, c'était un des éléments forts du programme du président. Ça fait partie des choses qui m'inquiètent beaucoup, et je trouvais que jusqu'à présent, on avait beaucoup une approche de dire, vous inquiétez pas, braves gens, dormez tranquille, on va reculer d'un ou deux ans l'âge de départ à la retraite, et puis vous verrez, ce sera la solution miracle. Là, je crois qu'on est sur une réforme qui est assez intéressante, très ambitieuse, et au-delà de ma couleur politique et du président de la République, moi, c'est aussi ce à quoi j'aspire quand je suis suis citoyenne Marie Lebec, j'ai envie que quelqu'un nous dise, bah, moi je suis capable de penser à un système à 30 ou 40 ans.
Merci beaucoup Marie Lebec d'avoir été avec nous. On le voit plein de dynamisme et puis mais vous avez raison, la réforme des retraites c'est quand même important et complexe. Marie Lebec, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, était notre invitée et donc l'ancienne rapporteure de la loi Pacte en charge des privatisations. Tout de suite on va reprendre la direction du théâtre des Champs-Élysées où nous attend Raphaël Couder. Vous savez, ce soir c'est la grande journée des BFM Awards, un rendez-vous important. Raphaël Couder, expliquez-nous comment ça va se dérouler.
Effectivement, juste derrière moi se trouve la grande salle de ce théâtre des Champs-Élysées où sont en train d'être réglés les tout derniers détails avant la cérémonie de ce soir. Alors c'est la 15e édition des BFM Awards et cette année elle est placée sous le signe de la conquête. La conquête en référence à la conquête spatiale, 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et on attend 1600 personnes dans la salle, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs mais aussi des créateurs venus de tous horizons pour venir célébrer l'excellence de l'économie française. On va remettre une petite dizaine de prix pour récompenser eh bien, les meilleures performances de l'année, notamment la meilleure saga familiale, la meilleure performance à l'export. Petite nouveauté aussi, on récompensera également le meilleur manager digital de l'année. Et en fin de cérémonie, vous retrouverez également, bien sûr, la récompense ultime, le grand prix de ces BFM Awards. L'année dernière, c'est François-Henri Pinault qui avait reçu le prix. Il sera là sur scène ce soir pour remettre lui-même le trophée à son successeur. Alors, qui pour lui succéder? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous sur BFM Business dès 19h, le Before animé par Pauline Tadevin, et s'en suivra la grande cérémonie à partir de 19h30, animée par Christophe Jacubizine et plusieurs membres de la rédaction de BFM Business.
Et je vous le confirme, merci beaucoup Raphaël Couder. Donc rendez-vous sur BFM Business TV Radio à partir de 19h et 19h30, top départ. Et puis demain, on se retrouve à 7h30 pour l'interview de celui qui va succéder à François-Henri Pinault. Et vous allez voir, restez avec nous ce soir, c'est une belle surprise et un grand manager. Bonne journée, donc à demain matin à 19h30 et à ce soir donc pour la cérémonie des BFM Awards.